Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient, nous sommes vendredi et vous le savez, le vendredi c'est la libre antenne. Dans 30 minutes vous pourrez commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, internationale, africaine. Je vous cache pas que vous êtes nombreux ce matin à souhaiter réagir à la décision prise hier soir par Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, tollé international. Nous vous donnerons évidemment la parole. Le téléphone sonne également ce matin pour commenter le retour d'Abdoulaye Wade sur l'échiquier politique. À 91 ans, l'ancien président sénégalais est candidat aux législatives. Des commentaires sur la contestation qui dure et qui s'éternise dans le nord du Maroc. Le scandale qui éclabousse l'église catholique au Mali. Vous savez qu'on parle de détournement de fonds, de comptes bancaires en Suisse. Là aussi, vous nous appelez du Mali, de Bamako, pour commenter cette actualité. Bref, tous les sujets nous intéressent. Donc surtout, n'hésitez pas. Un seul numéro, 33 9 693 693 70. Vous souhaitez réagir à l'actualité sur les réseaux sociaux, eh bien c'est possible. Un seul site, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les jours, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer avec Ibrahim qui est au Cameroun. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Monsieur Wan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Oui, Athènes et Berlin ont pris la décision de limiter les transferts des réfugiés qui peuvent prétendre au regroupement familial. De ce fait, j'ai des questions. Alors, ma première question est de savoir pourquoi avoir pris cette décision de limiter le transfert d'Athènes vers Berlin. Ensuite, que comptent mettre en place les autorités grecques pour les réfugiés maintenant que ce transfert est limité?
Les transferts de réfugiés vers l'Allemagne dans le cadre du regroupement familial seront ralentis comme convenu. Voilà ce que le ministre grec chargé de la politique migratoire a écrit dans une lettre adressée le mois dernier au ministre allemand de l'Intérieur. Lettre publiée cette semaine par un quotidien grec. Du coup, le sujet est très commenté à Athènes. Bonjour Charlotte Sievenard.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la correspondante d'RFI en Grèce. D'abord, dites-nous qui a pris une telle décision.
Alors, ce n'est pas la Grèce directement, hein, même si la lettre qu'a envoyée le ministre de l'immigration, Yanis Mousalas, au ministre allemand de l'Intérieur, montre qu'il s'agirait d'une espèce d'accord entre les deux pays. Mais en réalité, si la Grèce a accepté, c'est surtout pour faire une faveur à l'Allemagne, avec qui les relations sont compliquées depuis la crise. Donc c'est surtout une décision allemande. Hein, le gouvernement d'Angela Merkel a justifié, dans une réponse à une question posée par le parti de gauche Die Linke, il a justifié sa décision. Il dit que les structures d'accueil et le soutien sont limitées en Allemagne, où il y a eu des efforts considérables de coordination entre les États allemands et les autorités fédérales. Hein. Si on regarde, en 2015, il y a eu 900 000 demandes d'asile en Allemagne et 280 000 en 2016. Donc, c'est des chiffres assez importants et on comprend la difficulté du gouvernement à gérer cette situation.
Donc, si l'Allemagne, à l'avenir, va accueillir de moins en moins de personnes, j'imagine que les délais d'attente vont s'allonger. Est-ce que c'est légal dans le cadre de l'Union européenne ?
Dans le cadre du regroupement familial, ça pose effectivement des problèmes parce que ça serait pas tout à fait légal. Hein. C'est pour ça qu'il y a peu de communication sur le sujet. Cette affaire est sortie dans la presse, il y a eu des fuites. C'est pas un sujet sur lequel les deux gouvernements communiquent. Et on le voit que la Grèce ne souhaite surtout pas être rendue responsable de cette décision. Parce qu'en effet, le règlement de Dublin qui détermine la répartition des demandeurs d'asile en Europe explique que il y a 6 mois de délai entre le moment où une personne qui se trouve en Grèce a été acceptée pour le regroupement familial et le moment où elle doit être transférée. Alors, à l'heure actuelle, il y a plus de 2000 personnes qui sont en Grèce, 2400 environ, qui attendent d'être envoyées en Allemagne pour rejoindre leur famille, leur mari ou leurs enfants. Si la décision de l'Allemagne est effectivement appliquée, donc il y a 70 personnes par mois qui partent, le compte est vite fait. Il faudra que certaines personnes attendent presque 2 ans pour pouvoir rejoindre l'Allemagne.
Alors concrètement, quel avenir justement pour ces 2000 personnes concernées par cette décision? Que comptent faire les autorités grecques pour aider ces réfugiés?
Alors, les marges de manœuvre du gouvernement grec, en tout cas pour accélérer les renvois, sont assez limitées. Hein. Le ministre de l'Immigration est resté assez vague. Il a déclaré au journal des rédacteurs, un quotidien grec de gauche, qu'il ne voulait pas condamner l'Allemagne pour ses pratiques, qu'il trouvera des solutions par le dialogue et la diplomatie. Le ministère allemand de l'Intérieur a répondu que les transferts auront lieu quand même, hein, même si c'est au-delà des délais. Mais effectivement, on se pose la question, que vont faire les personnes qui attendent ici, parce qu'il s'agit aussi beaucoup de femmes seules ou d'enfants, des mineurs non accompagnés. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse là-dessus. On sait juste que les personnes concernées devront attendre dans les camps, pour ceux qui ont pu obtenir une place dans un camp, ou dans des structures d'accueil pour les enfants mineurs non accompagnés. Et c'est des conditions pas toujours difficiles, surtout dans les camps, même si ça s'améliore. Et surtout, il y a l'impossibilité pour ces personnes-là de recommencer leur vie, en sachant que dans les deux prochaines années, ils changeront de pays, il faudra réapprendre la langue, commencer une formation. Donc voilà, c'est... Pour l'instant, les choses ne sont pas dans les mains du gouvernement grec.
Ouais. Ibrahim, on a répondu à vos deux questions.
Oui, c'est bon. Merci.
Merci de votre fidélité. Bonne journée au Cameroun. Charles Sievenard, merci d'avoir été en direct avec nous d'Athènes, 10h16 à Paris. Vos questions, 33 9 693 693 70. Amir, vous êtes à Libreville, au Gabon. Bonjour à vous.
Bonjour, Anne, bonjour à tous.
Et vous avez des questions concernant les élections législatives des 11 et 18 juin en France.
Oui, Juan. Selon un dernier sondage, le parti La République En Marche est crédité de 31% des intentions de vote, soit la majorité absolue, suivie de Les Républicains avec 18% et 17% par le Front National. Suite à cela, ma question est la suivante. Comment expliquer qu'après avoir voté par défaut Emmanuel Macron à la présidentielle, les Français veulent maintenant lui donner la majorité?
Ouais, c'est vrai que les deux derniers sondages donnent une majorité absolue des suffrages au mouvement d'Emmanuel Macron. Bonjour Bruno Cotrès.
Bonjour.
Spécialiste des comportements électoraux, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Notre auditeur a raison, c'est vrai qu'au second tour de l'élection présidentielle, nombreux étaient les électeurs qui avaient voté Emmanuel Macron par défaut pour faire barrage à Marine Le Pen au Front National. Et visiblement, si on en croit les dernières enquêtes d'opinion, le président de la République semble en passe de réussir son pari, c'est-à-dire obtenir une majorité forte à l'Assemblée nationale.
Oui, on n'est pas du tout dans le même contexte. On était dans le contexte de la présidentielle, effectivement, dans une élection qui était une élection face à Marine Le Pen pour Emmanuel Macron, et puis également dans un contexte où les candidatures à la fois de François Fillon et de Benoît Hamon pour les Républicains et pour le Parti Socialiste n'avaient pas complètement convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, leur camp. Donc il y avait effectivement une dimension d'élection presque par défaut d'Emmanuel Macron, et là on est passé à autre chose, c'est-à-dire que maintenant qu'il est installé à l'Élysée, eh bien, la dynamique normale des élections présidentielles va donner à plein, c'est-à-dire que les élections législatives vont servir de troisième tour, d'une certaine manière, de tour de confirmation d'élections présidentielles. Les Français ne souhaitent pas fondamentalement qu'un chaos s'installe en France avec un président nouvellement élu, surtout un jeune président qui représente beaucoup d'espoir, et on ne lui donnerait pas les moyens de gouverner. Ça serait tout de suite une situation beaucoup plus chaotique. Les Français ne souhaitent pas avoir cette situation chaotique, et oui, pour le moment, l'électorat fait preuve à l'égard d'Emmanuel Macron d'une sorte de bienveillance, mais de bienveillance qui est exigeante. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron a un tapis rouge devant lui sans difficulté qui l'attendent. Les Français ont d'abord comme réflexe de vouloir lui donner une majorité, mais dans le même temps, ils sont dans l'attente, et dans l'attente d'un certain nombre de réformes qui pourraient être des réformes qui seraient en même temps assez justes. Ils n'attendent pas des réformes qui vont aller dans le sens d'une économie davantage libérale, faisant fi du modèle social français. Donc il va falloir, pour Emmanuel Macron, trouver le juste ton et le juste équilibre entre ces différentes exigences.
Donc les Français, on entend bien, n'ont pas envie d'une cohabitation. Ils vont donc donner une vraie majorité au président de la République. Seront-ils pour autant, et je vais un peu au-delà de la question de notre auditeur, plus nombreux à aller voter que lors de la présidentielle?
Non, sans aucun doute que non. On constate depuis plusieurs élections présidentielles que, puisque les élections législatives se tiennent dans la foulée, 5 semaines après, on va assister à une chute de la participation. Lors des deux précédentes présidentielles, c'est moins 20 points de participation qu'on a eu aux législatives. Et moi, je m'attends à peu près à la même chose, c'est-à-dire que les électorats du Parti Socialiste et des Républicains ne sont pas encore remontés sur le cheval de bataille complètement. L'électorat qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir a fait l'essentiel pour lui, donc on peut s'attendre effectivement à une participation qui sera sans brut inférieur à 70%.
Alors Bruno Cotrez, restez en ligne. Amir a une dernière question à vous poser. Amir ?
Oui, Juan. Édouard Philippe a annoncé qu'en cas de défaite des ministres législatifs, ils devront tout simplement démissionner. Donc la question est celle-là. Quels sont les ministres qui sont les plus en danger selon les sondages ?
Alors ce n'est pas vraiment Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a pris une telle décision. C'est le Président de la République hein, qui a fixé les règles du jeu. Il y a six ministres hein, qui se présentent aux élections législatives, Bruno Cotrez. Six ministres qui jouent donc leur avenir s'ils échouent aux élections.
Oui, bien sûr. Et on pense en particulier à Richard Ferrand. Richard Ferrand qui est sur la sellette depuis plusieurs semaines maintenant suite aux révélations concernant d'éventuels conflits d'intérêts lorsqu'il était président d'une mutuelle en Bretagne. Donc lui semble avoir une élection difficile qui se présente devant lui. En revanche, pour d'autres ministres, par exemple Bruno Le Maire semble plutôt bien parti pour le moment dans sa circonscription, mais c'est sûr que les ministres qui perdront aux législatives quitteront le gouvernement. Ce n'est pas Emmanuel Macron. On se rappelle qu'en 2007, Nicolas Sarkozy, à peine élu, avait confié à Alain Juppé un très grand ministère sur les questions d'environnement. Mmh. Alain Juppé avait été battu, il avait quitté instantanément le gouvernement. Je crois que c'est une question de crédibilité pour les élus. Comment peut-on prétendre bien représenter les Français si on n'arrive pas à être élu dans sa circonscription ?
Bruno Cotrez, membre du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, merci d'avoir été avec nous ce matin. Amir, bonne journée à Libreville, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, la Libre Antenne. Vous pouvez évidemment continuer à nous appeler pour vous exprimer sur l'actualité de votre choix. Hugo Moissonnier du service des sports d'RFI nous rejoint. Bonjour Hugo.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions sur Arsène Wenger, l'entraîneur et le directeur sportif d'Arsenal. On en a beaucoup parlé cette semaine. Yadjon Bey nous appelle de Marois au Cameroun. Bonjour et soyez le bienvenu sur notre antenne.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
L'entraîneur français Arsène Wenger, à la tête du club depuis 1996, vient de prolonger de 2 ans son contrat avec Arsenal,
oui.
Alors que les performances de l'équipe n'est pas très bonnes ces dernières années. Alors ma question ici, c'est de savoir comment expliquer qu'il soit reconduit malgré tout.
Ouais, bonne question, effectivement, Hugo Moissonnier. Ça fait des mois et des mois qu'Arsène Wenger est contesté par la presse, contesté par une bonne partie des supporters. C'est vrai qu'au regard des mauvais résultats obtenus cette saison par Arsenal, on pensait qu'Arsène Wenger serait remercié après 21 années de bons et loyaux services. Finalement, l'actionnaire a décidé le contraire. Pourquoi ?
Alors, certes, cette année, il y a eu des résultats un peu moins bons que d'habitude, avec une non-qualification pour la Ligue des Champions. Arsenal finit 5e et non pas parmi les 4 premiers du championnat anglais. Mais justement, ça c'est l'exception. La règle à Arsenal, c'est pas ça. Depuis la saison 97-98, Arsène Wenger a toujours qualifié le club pour la Ligue des Champions. Le club a toujours terminé parmi les 4 premiers de son championnat. C'est une régularité assez incroyable, assez exceptionnelle. Alors,
oui, enfin, dans n'importe quel autre club, excusez-moi Hugo Moissonnier,
allez-y.
Si les résultats ne sont pas bons, eh bien le sélectionneur, l'entraîneur, il est remercié.
Alors,
et cette année, les résultats n'ont pas été bons.
Cette année, les résultats ont été mitigés. Il y a tout de même eu une Coupe d'Angleterre, la semaine dernière, remportée face à Chelsea. Donc un trophée en fin de saison, c'est quand même quelque chose qui sauve le bilan d'Arsène Wenger sur cette saison. Et puis, j'en reviens quand même aux saisons précédentes, cette régularité exceptionnelle. Alors même que le club, il y a quelques années, avait dû changer son modèle, notamment pour faire émerger un nouveau stade et changer de modèle économique. Arsène Wenger avait alors accompagné d'une main de maître cette transition, notamment permettant au club de rester compétitif et de continuer à se qualifier pour la très lucrative Ligue des Champions, j'y viens juste après, tout en ne dépensant pas trop sur le marché des transferts, parce que au-delà d'être un technicien et un tacticien qui a des résultats, Arsène Wenger c'est aussi quelqu'un qui a su permettre à ses actionnaires de rentrer dans leurs frais.
Donc c'est un bon gestionnaire et c'est pour ça qu'il reste.
Entre autres, en tout cas, il a la confiance justement de ses propriétaires parce que le bilan économique d'Arsenal est exceptionnel depuis plusieurs plusieurs années. C'est un club qui gagne de l'argent, tout simplement. Le bilan, les voyants sont au vert. Et donc, résultat, ça pousse forcément les propriétaires à faire confiance à Wenger, même s'il y aura des ajustements peut-être à faire pour la saison prochaine. Effectivement, Arsenal n'a pu remporter le titre de champion d'Angleterre depuis 2004. C'est un peu une éternité. 16 titres en tout pour Wenger, mais plus de titres de champion depuis 2004. Et il y aura peut-être beaucoup d'argent à dépenser sur le marché des transferts. Il va falloir frapper un grand coup. C'est en tout cas ce qu'a promis Arsène Wenger et c'est apparemment ce qui risque de se passer. Il y aura de l'argent à dépenser. Arsène Wenger compte le dépenser. Lui qu'on a souvent reproché d'être un peu pingre, si on passe l'expression, ces dernières années.
En tout cas, il va devoir relever de nombreux défis pour redorer le blason d'Arsenal. Hugo Moissonnier, merci. Bonne journée à vous. Et on remercie évidemment Yajon Bey qui nous appelait de Marois au Cameroun. Il est 10h25 à Paris. On a le temps de prendre une dernière question. Abdelaziz, bonjour.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez du Bénin et vous avez des questions concernant la démission du directeur de la communication de Donald Trump. On vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, 3 mois seulement après avoir été nommé par Donald Trump, Mike Dubke a annoncé sa démission. Ma question est de savoir les raisons principales de cette démission. En effet, plusieurs médias parlent d'une série de changements attendus à la Maison Blanche. Est-ce qu'on en sait davantage sur cette série de changements ?
C'est vrai que certains médias croient savoir qu'il va y avoir du changement au sein de l'administration Trump. Alors peut-être que la démission du directeur de la communication n'est que le début d'une série de remerciements, de limogeages. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Spécialiste de la politique intérieure des États-Unis, maître de conférences à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Le directeur de communication a effectivement démissionné. Ça faisait à peine 3 mois qu'il était à la Maison Blanche. Il évoque des raisons personnelles. Alors, il a démissionné lui-même ou selon vous, il a plutôt été remercié?
Les raisons personnelles, c'est un gros cliché dans la politique américaine pour quand on ne veut pas dire la vérité. La vérité, c'est que la communication de la Maison Blanche depuis janvier est assez chaotique. Et elle est à l'évidence, cela rend Trump assez furieux. Parce qu'il ne réalise pas que c'est à cause de lui qu'il y a le chaos. Que c'est ses tweets, on a vu encore la coquille avant-hier dans son tweet de minuit. Il n'a pas les codes de la communication présidentielle, il refuse de les apprendre. Comme ça fonctionne mal, il cherche un bouc émissaire. Le véritable bouc émissaire, c'est sans doute en fait le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, qui est dans la liste, quand vous disiez qu'il y avait des rumeurs, effectivement c'est sans doute lui le suivant sur la liste. Mais le premier qui est parti, c'est Mike Dubke, qui était le chef de la communication, le chef du porte-parole.
Ouais. Donc, effectivement, difficile quand on s'occupe de la communication de Donald Trump d'avoir de bonnes relations avec la presse, surtout quand on a son chef, en l'occurrence le président américain, qui ne cesse de communiquer de son côté via son compte Twitter. Ça veut dire quoi? Il faut s'attendre à d'autres départs dans les prochains jours, les prochaines semaines?
Oui, je pense que on ne réalise pas à quel point c'est dur de travailler pour Donald Trump. Bon, ces gens-là l'ont choisi, mais quand même, le point de vue de la communication, par exemple, ça se voit très bien quand il y a 15 jours, avant la grande tournée internationale, les grandes révélations sur le FBI, la Russie. L'équipe de communication, Sean Spicer en particulier, va à la télé pour expliquer « Non, tout ça c'est faux, c'est n'importe quoi, le journaliste l'invente. » Et ensuite, Trump, par Twitter et dans ses propres interventions avec les journalistes, dit « Ah si, c'est vrai. C'est vrai que j'ai demandé à Comey de partir du FBI parce qu'il enquêtait sur la Russie. » Donc, les porte-paroles de Trump, son équipe, est systématiquement sabotée par Trump lui-même. Ce qui est, je pense, très dur personnellement à vivre pour eux. Et sans doute que Dubke n'est que le début d'une petite vague de départ. C'est toujours normal de partir, les équipes à la Maison Blanche, elles se fluctuent. Mais au bout de 3 mois, comme l'a dit votre auditeur, ça c'est assez exceptionnel. C'est quand même très tôt pour voir des départs.
Effectivement, on suivra ça évidemment avec un grand intérêt. Merci Françoise Coste, spécialiste des États-Unis. Je rappelle votre ouvrage, Reagan, aux éditions Perrin. Merci à tous de votre fidélité. Restez à l'écoute évidemment des RFI. Dans un instant, on va retrouver toute la rédaction Afrique des RFI pour le dernier point complet de l'actualité africaine. Et puis on reviendra juste après pour la Libre Antenne.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.